Bon, je dois vous avouer, c'est toujours une joie de vous voir et il faut avouer par exemple qu'il y a un peu plus de cheveux gris maintenant qu'il y a peut-être 27 ans, je dirais. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est une joie d'être là avec vous et je pense que quand je reviens, quand je vous vois et je vous vois aussi dans d'autres contextes aussi, à différents moments, je suis vraiment frappé par la fidélité de Dieu et la façon que Dieu nous a accompagnés. Quand j'ai rencontré Céline pour la première fois, elle était enceinte avec Jean-Philippe. Donc voilà, ça vous donne une certaine idée du nombre d'années que nous avons passées ensemble à différents moments. Donc on voit jusqu'à quel point Dieu a été fidèle et maintenant c'est Jean-Philippe qui est papa. Et voilà, ça fait quand même... Tout un changement, mais la fidélité de Dieu qui nous a accompagnés tout au long de notre pèlerinage. Donc, Marc m'a demandé de vous parler justement de notre héros par excellence, Jésus, et ce que j'ai accepté avec plaisir même. Et peut-être avant d'entrer là-dedans, juste parler de l'importance de modèle, prochain diapo. Et voici un passage en Éphésiens que vous connaissez peut-être bien. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père céleste, et que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Donc, on voit que l'apôtre Paul nous dit ici, mais voici nos deux modèles. On a notre Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'amour que Jésus nous a manifesté lorsqu'il a donné sa vie sur la croix devrait nous inspirer dans notre amour les uns pour les autres. Donc, tout un défi pour nous. Mais ce qu'on voit dans la Bible, le prochain diapo, là, c'est que quand la vie de Jésus est présentée comme un modèle, ce n'est pas un modèle, c'est un modèle qui est trop loin, trop difficile à atteindre, il faut l'avouer. Donc, comment ne pas se décourager devant ce défi-là? Donc, nous trouvons ceci dans un autre enseignement de l'apôtre Paul. Et voici le secret, Éphésiens chapitre 1. Christ en vous garantit de votre espérance et de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Donc, La bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de la vie chrétienne, c'est que Christ habite en nous. Et que si nous allons suivre son exemple, ce sera grâce à son esprit et sa présence qui vit en nous. Amen. Donc, oui, le modèle est trop haut, on ne sera jamais à la hauteur, on ne sera jamais à la ressemblance parfaite de Christ. Mais grâce à sa présence en nous, il y a des transformations qui peuvent se faire et s'opérer dans nos vies. Donc, voilà la grande... à vérité biblique à laquelle il faut s'attacher. Mais en même temps, c'est quand même un exemple biblique, un enseignement biblique que nous devons nous inspirer de nos modèles, de nos dirigeants. Et prochaine diapo, en Hébreux chapitre 13, nous lisons « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. » Imitez leur foi. Donc, j'espère que vous avez des personnes... des leaders, des conducteurs dans votre vie, ceux qui vous ont marqué de différentes façons, peut-être des gens que vous connaissez personnellement ou peut-être un auteur ou un leader chrétien qui vous inspire. Mais voici un de mes modèles à moi, c'est Leighton Ford. Peut-être vous l'avez déjà rencontré. Il est venu prêcher ici en 91, n'est-ce pas? Qui était là au forum quand il a prêché? Plusieurs. On voit que c'est un homme, finalement, c'est le beau-frère de Billy Graham. Hein? Ils ont épousé des sœurs. L'épouse de Leighton Ford, c'est la jeune sœur de Billy Graham. Elle est encore vivante aussi. Donc, mais c'est un homme, j'ai eu le privilège dans les années 90 de suivre un programme de formation avec lui. Et j'ai trouvé un homme avec un cœur extraordinaire pour Dieu, un amour pour l'Évangile, une écoute des autres, vraiment un homme qui m'a beaucoup inspiré. Et j'ai dit, quand je suis grand, je veux être comme lui, tu sais? Et c'est vraiment, j'espère que vous avez quand même quelqu'un dans votre vie ou quelques modèles comme ça qui vous inspirent dans votre croissance personnelle. Donc, lui, c'est un modèle pour moi. Mais notre modèle par excellence, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va lire le passage, un passage qui nous inspire, où on voit justement un modèle, un homme de prière, un homme de profondeur, qui nous inspire dans notre propre cheminement chrétien, notre Seigneur Jésus. Marc chapitre 14, verset 32, vous pouvez suivre sur l'écran. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémané et dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il amène avec lui Pierre, Jean, Jacques et Jean, son trio là. Il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez. » En allant un peu plus loin, il tomba à terre et pria pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 37. Il vient et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller une heure? Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Puis de nouveau, il vint, verset 40, il les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui dire. Pour la troisième fois, il vient et leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. » C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. « Levez-vous, allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. » Au même instant, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des douze, avec une troupe armée d'épées et de bâtons, qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui les livrait avait convenu avec un signal. « À celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui, arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit, « Rabbi, » et lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Verset 47, « L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. » Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc, on voit Jésus dans son combat ardu dans le jardin, et ce modèle, son exemple va nous inspirer ce matin. Mais je vous parlais de quatre inspirations. La première, c'est vraiment sa spiritualité, sa marche avec Dieu, son intimité avec son Père, sa vie de prière. Et la deuxième inspiration qu'on va trouver dans son exemple, c'est vraiment son intériorité. On voit que c'est un homme qui était à l'écoute de ce qui se passait dans son propre cœur. Deuxième chose qu'on va voir. Troisième, son interpersonnalité. Je sais que ce n'est pas un mot, là, mais ça fait bien. Sa relation avec les autres. Donc, comment conjuguer avec nos relations humaines? Les relations difficiles, nos proches, nos ennemis. On voit l'exemple de Jésus qui nous inspire ici aussi. Et quatrième point, son activité, son œuvre, sa présence et impact dans le monde. Donc, comment Jésus a trouvé le courage de suivre son chemin à lui, un chemin qu'il a mené jusqu'à la croix. Donc, voilà ce qui va nous guider un peu ce matin. Donc, commençons avec son intimité avec Dieu, sa spiritualité, sa vie de prière. Verset 32, ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémané, et il dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Elle un peu plus loin, il tomba verset 35 à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât de lui. « Abba Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » De nouveau, il s'éloigna verset 39 et pria en répétant les mêmes paroles. Donc, que faisait Jésus devant l'épreuve de sa vie? il s'est donné à la prière. C'était son... il s'est tourné automatiquement vers la prière dans ces moments les plus difficiles de la vie. Et c'est la dimension de notre héros le plus important, n'est-ce pas? C'est vraiment sa vie de prière, sa vie d'intimité avec son Père. C'est là où il trouvait sa force, sa vitalité, sa capacité d'affronter l'épreuve la plus difficile de sa vie, celle d'aller jusqu'à la croix pour nous. Il trouvait là, le véritable combat a été remporté dans le jardin et dans la prière. Et ce n'est pas différent pour nous. Face à nos combats dans la vie, nos déceptions, nos épreuves, on va gagner ce combat-là dans la prière, avant tout et surtout. Donc, on voit vraiment une fenêtre fascinante de sa vie de prière. Et je pense qu'on voit que c'était l'habitude de Jésus, était de se donner à la prière. Et même, on voit que donc c'était une habitude normale pour lui. Même ses disciples, en voyant Jésus prier, disaient souvent, « Enseigne-nous à prier ». Donc, on voyait que les disciples voyaient que Jésus était un homme de prière. Ils voyaient que la ressource de la vie de Jésus était vraiment sa relation de prière avec son Père. C'était sa deuxième nature. Et moi, je pense que c'était pas la première fois non plus qu'il a pris Pierre, Jean et Jacques avec lui dans un de ses épisodes de prière. Et je pense que c'était pas la première fois non plus qu'ils se sont endormis pendant que Jésus priait. Ils avaient toute une habitude, c'est tout à fait normal pour eux d'aller avec Jésus dans un lieu de prière et de s'endormir pendant que Jésus priait. Et ils voulaient que ses disciples soient avec lui pour qu'ils apprennent aussi l'importance de la prière, l'importance de veiller et de prier. Mais on voyait que c'était l'habitude de Jésus était de se donner à la prière, surtout devant les épreuves importantes de la vie. Donc, une inspiration pour nous. Puis on voit deuxièmement son honnêteté brutale aussi. Il disait exactement ce qu'il vivait. Il parlait justement de ses inquiétudes, de ses frayeurs. Il dit à son père, il tombait à terre pour exprimer jusqu'à quel point il était dans l'angoisse. Écarte de moi cette coupe, il disait à son père. Donc, il ouvre son cœur, il ouvre grand son cœur à son père. Il dit exactement ce qu'il vit. Il dévoile pleinement le combat de son âme, les souffrances de son âme. Et donc, on voit cette honnêteté dans sa vie de prière. Donc, il n'a pas dosé ses paroles. Et quand on lit les psaumes, par exemple, on voit qu'on n'a pas besoin de doser nos paroles lorsqu'on prie. On peut dire, et on est encouragé à dire tout ce que l'on vit, tout ce que l'on pense, même nos inquiétudes, nos questions profondes, nos doutes qui peuvent exister, qui existent encore dans nos cœurs. On peut tout déballer ça devant Dieu, parce qu'il a dos large, il peut prendre tout ce qu'on lui donne. On peut tout mettre sur son dos à lui. Et notre Seigneur Jésus le savait. Donc, on voit cette honnêteté brutale dans sa prière. On voit aussi son intimité spéciale avec son Père, Abba Père, ce mot d'intimité avec Dieu. Donc, on voit que Jésus a appris à marcher dans l'intimité avec son Père. Il connaissait bien son Père. Il connaissait combien son cœur, il connaissait son amour. Il pouvait s'approcher de lui avec ses questions, avec son combat profond et personnel, parce qu'il connaissait bien son Père. On voit cette intimité avec son Père. On voit aussi cette intensité avec laquelle Jésus a prié. Il a mis tout son cœur dans sa prière. Donc, c'est un encouragement pour nous d'entrer pleinement dans notre vie de prière, de cultiver une vie de prière honnête, profonde, intime avec notre Père et de tout mettre, de tout déposer devant lui dans la prière. Et finalement, c'est le combat le plus important. Ça a été le combat le plus important pour Jésus, puis ça l'est aussi pour nous dans notre vie. Je ne sais pas, vous vous trouvez devant quel combat, devant quelle épreuve qui s'annonce à vous. Je ne sais pas, au niveau de la santé, au niveau relationnel, au niveau économique, je ne sais pas vous vous trouvez devant quel défi dans votre vie. Mais Jésus nous inspire, par son exemple, à relever le défi dans la prière, premièrement et avant tout. Amen. Premièrement et avant tout, notre vie de prière y compte. C'est un défi pour nous. Deuxièmement, on voit son intériorité, sa connaissance propre. On voit que Jésus, il savait ce qui se passait dans son cœur. C'est un homme qui était conscient de son état d'âme. Puis, Regarde les mots ici, un peu frayeur, angoisse, mon âme est triste à mourir. Il priait, si possible, que cette heure passât de lui. Il faisait face à l'épreuve de sa vie, puis il avait peur. Toutes les profondes émotions étaient secouées, son âme était secouée profondément par l'épreuve devant laquelle il se trouvait. Puis on voit que Jésus avait cette saine intériorité, il savait ce qui se passait dans son cœur. Il était conscient de ce qu'il vivait émotionnellement aussi. Et c'est aussi un encouragement pour nous. Puis on voit qu'il y a une progression quand même naturelle. En connaissant Dieu, on va aussi découvrir l'état de notre propre cœur, de notre propre âme. Donc, grâce à sa vie de prière, grâce à son écoute de Dieu, il pouvait aussi savoir ce qui se passait dans son propre cœur. Puis Jésus savait ce qui s'en venait. Il savait qu'il devait porter le poids de l'humanité, du péché de l'humanité, qu'il devait boire la coupe de souffrance, qui était la souffrance du péché de l'humanité. Et il était conscient de ce qui s'en venait. Et cette peur, la peur et l'inquiétude étaient réelles pour lui. Et chose certaine, nous n'avons pas à passer à travers une épreuve si profonde que Jésus a passée. C'est le seul qui a passé par là. Mais nous avons chacun de nous nos épreuves par lesquelles nous devons passer. Et ces épreuves-là sont accablantes et difficiles. Je n'ai pas vécu de profondes épreuves dans ma vie au niveau de ma santé, mais certaines épreuves relationnelles, j'ai passé à travers comme vous tous. Et vous savez, quand vous êtes dans une épreuve, dans une souffrance profonde, vous le ressentez physiquement, même si vous n'êtes pas malade physiquement, hein, si vous vivez un drame émotionnel profond, là, vous le ressentez dans le profond de votre physique aussi. Physiquement, vous vivez cette souffrance-là. Puis on voit ça dans la vie de Jésus. On voit que, même pas dans la patience en Marc, mais on voit dans un autre évangile que même les gouttes de sang tombaient pendant que Jésus priait, jusqu'à quel point il était physiquement secoué par l'angoisse qu'il vivait intérieurement. Donc on voit l'exemple de Jésus ici, un encouragement à affronter les émotions qui bouillent dans nos cœurs et dans nos vies. C'est sûr que des fois c'est difficile d'aller là, hein, d'aller, disons, explorer les émotions que je vis personnellement. Je me souviens très bien d'une expérience avec Michel Houle il y a 20 ans à Ramassa des Forteresses, où je devais passer par les émotions profondes avec plusieurs parmi vous d'ailleurs, nous étions ensemble. Et jusqu'à quel point Dieu m'a touché, je me souviens très bien du courage que Dieu m'a donné d'aller là, d'aller visiter les émotions profondes d'une expérience que j'avais vécue jeune. Donc, grâce à la présence de Jésus avec nous, nous pouvons aller explorer les émotions les plus profondes que l'on peut vivre. Et voici l'encouragement que Jésus nous donne. Donc, passons à la prochaine inspiration que Jésus nous donne. Donc, on voit son interpersonnalité. J'excuse, hein, je sais que ce n'est pas un mot, je le cherchais dans le dictionnaire, mais ça n'existe pas. Mais je trouvais que ça résonne quand même bien. On voit la capacité que Jésus avait de gérer ses relations humaines. Et on voit premièrement la relation avec ses proches. Donc, il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc, on voit qu'à différents moments dans son ministère, Jésus prenait les trois avec lui sur le mont de Transfiguration. À différents moments, il avait ces trois avec lui. Et donc, on voit premièrement que Jésus reconnaît, puis c'est une inspiration pour nous, Il avait besoin de ses amis. Et ça, c'est la première chose, je vous encourage, là. Si vous passez par une épreuve, actuellement, vous avez besoin de vos amis. Et n'affrontez pas cette épreuve-là tout seul. Vous avez besoin de vos amis. Jésus lui-même avait besoin de ses amis. À plus forte raison, nous en avons besoin. Donc, Jésus savait qu'il avait besoin de ses amis. Il savait aussi que ses amis étaient faibles. Il savait que ses amis étaient faibles. Qu'il ne serait pas à la hauteur de ses attentes. Et on voit, par exemple, il dit à Pierre, « Demeurez ici, veillez. » Puis là, au verset 37, « Tu n'as pas eu la force de veiller une heure avec moi. » Il n'a pas demandé à Pierre de veiller toute la nuit avec lui, là. Juste une heure, Pierre. Juste, c'est tout ce que je te demande. Mais il n'était pas capable. Et finalement, on voit qu'il n'était pas, Pierre n'était pas à la hauteur des attentes de Jésus. Il aurait aimé que ses amis soient là, en train de veiller avec lui pour l'encourager, pour le fortifier dans son épreuve, mais là, il se sent endormi. Et des fois, nos amis s'endorment. On a besoin d'eux, puis ils ne sont pas là, tu sais. Ils ne répondent pas au téléphone, ou ils ne retournent pas notre appel, ou ils ne semblent pas vraiment être intéressés par ce que l'on vit. Et on vit une certaine déception par rapport à nos amis et à leurs faiblesses. Mais ça fait partie de la réalité que Jésus vivait aussi. Mais on voit troisièmement, avec, mes amis ont besoin de mon encouragement, même quand je suis moi-même découragé. Et on voit ça dans l'exemple de Jésus ici, que Jésus a pris le temps d'encourager, d'enseigner, d'inspirer ses disciples, tandis que lui-même, il vivait un profond découragement, n'est-ce pas? Il pensait à ses disciples, même dans son propre besoin à lui, il était toujours porté vers le besoin de ses amis. Quelle inspiration pour nous. Et on voit également que mes amis et nos amis risquent même de nous abandonner. Ce qui est arrivé avec Jésus, n'est-ce pas? Ces amis-là, ils l'ont abandonné. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Nous lisons. Et on voit un peu plus loin que Pierre lui-même va le renier dans sa présence un peu plus loin. Donc, on voit que Jésus devait prendre son chemin vers la croix tout seul, effectivement, parce que ses amis l'ont tous abandonné. Mais pourtant, Jésus n'a pas abandonné ses amis, même si ses amis l'ont abandonné. Quelle inspiration pour nous. Donc, on voit Jésus avec ses proches, mais on voit Jésus aussi avec son interpersonnalité, là, avec ses ennemis aussi, celui qui les livrait, est convenu avec un signal, « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, celui, arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Donc, il y avait deux sortes d'ennemis qui se sont approchés de Jésus. Il y avait un ennemi bien-aimé, un des 12, Judas. Puis, il y avait des ennemis à distance, les gardes, les soldats qui étaient là avec lui. Puis, dans la vie, nous allons aussi faire face à deux sortes d'ennemis. Des ennemis proches, malheureusement. Les membres de la famille, peut-être même pour certains parmi nous, notre époux ou notre épouse. On va vivre de profondes déceptions, des blessures profondes. Les ennemis proches, c'est ces ennemis-là qui nous font vraiment mal, n'est-ce pas? Quelqu'un à distance, avec qui on n'a pas de lien émotionnel, ils peuvent nous dire les choses, ils peuvent nous faire les choses, mais lorsqu'un ennemi proche, là, lorsqu'un membre de la famille, lorsqu'un ami nous trahit, nous blesse, ne nous respecte pas ou nous abandonne. Quelle tristesse, quelle blessure profonde ça nous fait, n'est-ce pas? Et Jésus a vécu ça avec Judas, n'est-ce pas? Et on voit par exemple qu'on ne peut pas ne pas être affecté par le mal et par la blessure qui vient des autres. On ne peut pas ne pas être affecté par cela. Je sais qu'un des enseignements bouddhistes, là, il faut se détacher de tout. Il y a une certaine vérité dans le bouddhisme, là, l'importance du détachement, il y a une certaine vérité là-dedans, mais il y a aussi un certain mensonge dans cet enseignement-là. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas se détacher. Ce n'est même pas sain de nous détacher de tout. Et on voit que Jésus n'était pas détaché de ses proches-là. Il n'était pas détaché de ses ennemis non plus, là. Il n'était pas détaché de Judas. Ça lui faisait quelque chose, ce baiser de la part de Judas, n'est-ce pas? Et même, pas en Marc, mais en Luc, nous disons, Judas, c'est un baiser, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Même Jésus était estomaqué en voyant jusqu'à quel point Judas l'a trahi, avec le geste qu'il a posé pour le trahir. Même Jésus n'en revenait pas en voyant ce geste-là. Et des fois, dans nos relations humaines, le geste de cruauté, de déception, de trahison qu'on va subir nous dépasse. Puis on n'en revient pas. Jusqu'à quel point la méchanceté peut habiter un être humain. Et jusqu'à quel point quelqu'un peut jeter sur nous cette méchanceté-là. Et Jésus a été affecté par ça. Il n'était pas un bout de bois, là. Il a été touché profondément par cette trahison qu'il a vécue de la part de Judas. Et nous aussi, dans notre vie, Lorsqu'on vit la trahison, lorsqu'on vit la déception profonde, on est touché par ça. Et c'est normal. Et ça fait partie de la vie, ça, cette souffrance-là que l'on vit. Mais comment réagir face à ça? C'est là où Jésus nous inspire, n'est-ce pas? Alors, on doit éviter le piège de la violence. On voit que Pierre, tout de suite, il a pris l'épée et puis il a coupé l'oreille du grand prêtre. On voit dans un autre évangile que Jésus a quand même guéri le grand prêtre, le soldat du grand prêtre. Mais on voit, il faut éviter les répliques, n'est-ce pas? Lorsqu'on est blessé, la tendance humaine, c'est quoi? C'est de répliquer, n'est-ce pas? De faire, là, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, là? Regarde que je suis capable, moi aussi, de te faire mal, tu sais, avec mes paroles, avec mes gestes. Puis c'est la réaction humaine, n'est-ce pas, de réagir de cette façon-là. Mais on voit que Jésus n'a pas réagi comme ça. Jésus n'a pas réagi de cette façon-là. Mais il était là pour lui, il était là pour ses ennemis, il a été là pour Judas même. Et Jésus a pris la coupe, il a bu la coupe, il n'a pas réagi à la violence. Il a absorbé la violence avec l'amour qui était dans son cœur. Puis il a donné grâce à ceux qui l'ont rejeté. Quel exemple! Et grâce à sa grâce à lui, grâce à Jésus, à la grâce qu'il déverse dans mon cœur, je peux moi-même vivre le pardon, je peux moi-même expérimenter les guérisons des blessures que j'ai vécues, je peux moi-même étendre la grâce aux autres. Donc, dans la vie, on voit boire aussi la coupe. On voit la prochaine diapo, juste le verset 38 en bas ici. Quand les deux, finalement, Jean et Jacques sont venus vers Jésus avec leur maman, vous souvenez-vous là? Puis ils voulaient avoir la place d'honneur à côté de Jésus. Et Jésus leur dit, verset 38, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je veux boire? » Et les disciples ont répondu, verset 39, « Oui, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je veux boire. » Et c'est quand même un verset profond là. « Vous boirez quand même la coupe que je veux boire. » Donc, Jésus a vécu la trahison, il a vécu la déception, il a vécu l'épreuve, la souffrance, et nous aussi, nous allons vivre des choses pareilles. Pas de la même façon, mais différent. Je vous connais pas tous, mais je connais les épreuves par lesquelles vous avez passé plusieurs parmi vous, là. Je sais que vous avez mis cette coupe amère à votre bouche, et vous goûtez encore à cette coupe amère, dans différentes circonstances de votre vie. Mais comment ne pas devenir des personnes cyniques? Comment ne pas devenir des personnes amères et de s'isoler, de s'éloigner des autres? De dire, là, ça fait trop mal aimer, là, je vais juste fermer mon cœur. Tu sais. La dernière fois que j'ai donné mon cœur à quelqu'un, mon cœur a été piétiné, a été saccagé par cette personne-là, donc je ferme la vie, je ferme mon cœur et je refuse d'aimer. Et je ne cours plus le risque d'aimer. Mais on voit que grâce à Jésus, nous pouvons courir cette crise-là, nous pouvons boire cette coupe-là, parce que Jésus l'a bu avant nous. En dernier lieu, son activité, son œuvre et sa réponse à l'appel, verset 36 en bas, « Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. » Et c'est la prière la plus importante que Jésus nous enseigne dans la vie, n'est-ce pas? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et on voit que Jésus a accepté de prendre le chemin de la croix, qui était le chemin le plus difficile, a accepté de prendre ce chemin-là pour nous, pour notre salut. Et il nous demande aussi de prendre notre chemin, ou je ne sais pas quel est ton chemin à toi, là, mais ce chemin d'obéissance, des fois coûteuse, des fois qui fait mal, qui fait peur. Il nous appelle à prendre ce chemin-là, mais il ne nous appelle pas à prendre ce chemin-là tout seul. Il a pris ce chemin-là avant nous. Il marche devant nous. Et il nous donne la grâce de marcher à sa suite, avec le même amour, avec le même pardon, avec la même grâce, la même capacité que lui, il a, que nous voyons ici. Donc, et nous, dernier dépôt, Nous voyons toute une progression ici, n'est-ce pas? On voit que comment Jésus a trouvé le courage, la force de marcher jusqu'à la croix. Et comment moi, je vais trouver la force de marcher dans le chemin que Dieu trace pour moi. Mais on voit l'exemple, l'inspiration que Jésus nous donne. Son intimité avec le Père, sa vie de prière. Voilà la chose essentielle, la chose la plus importante, c'est de cultiver cette relation intime et profonde avec notre Père dans la prière. On voit ce deuxième engagement de naviguer, d'affronter ce qui se passe dans mon cœur et dans mon âme, d'aller là, dans la prière avec les autres et d'explorer ce qui se passe dans mon cœur à moi. Troisième, de naviguer de mes relations humaines, qui sont des fois très compliquées, là, très difficiles, là, très décevantes. Mais comment faire face à ça, là? Mais seulement avec la grâce, avec la force que Jésus nous donne dans nos cœurs, avec son exemple qui nous inspire. Et cet appel coûteux d'obéissance, Jésus habite en nous, il va nous donner la capacité de suivre et de prendre le chemin qu'il trace devant nous. Amen.